97% de la biodiversité de la planète se trouve dans les océans. Et je pense qu'aujourd'hui, on a surtout exploré la biodiversité terrestre. 90% sont invisibles à l'œil nu. C'est une part énorme, donc tout ce qui est microalgues, bactérioplancton. Et seulement 1% de cette biodiversité marine a été décrite.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Gabrielle Moureau, directrice marketing et développement chez Codif Technologies Naturelles. Née au début des années 2000, en 2002 très exactement, Codif TN a développé un véritable savoir-faire dans la conception d'ingrédients et de principes actifs à base d'algues et de plantes de bord de mer. Mais son expertise scientifique va bien au-delà et c'est passionnant. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Gabrielle.
Bonjour Chantal.
Pouvez-vous nous présenter Codif Technologies Naturelles?
Alors Codif Technologies Naturelles, donc c'est une entreprise qui fabrique essentiellement des ingrédients actifs, qui a été créée en 2002 par Antoine Gédouin et Romuald Vallée. Et qui fait partie d'une entité un petit peu plus grande qu'on peut qualifier de groupe, qui s'appelle Codif International. Donc c'est une entreprise familiale depuis 3 générations et qui s'est créée sur la côte d'Émeraude à Saint-Malo en Bretagne. Donc vraiment tournée vers l'océan. Ouais. Et ça, c'est vraiment une partie très importante de l'ADN de la marque.
Et alors, voilà, justement, votre ADN, bah, c'est le naturel et les algues et les plantes de bord de mer plus spécifiquement. Quelles sont leurs particularités et pourquoi sont-elles très intéressantes en cosmétique?
Alors, on a commencé à travailler beaucoup avec les algues et elles sont intéressantes et surprenantes. Je vais prendre trois exemples pour illustrer ça. En fait, il faut vraiment se souvenir que tout a commencé dans les océans.
C'est vrai.
La vie sur Terre a commencé dans les océans. Et en fait, tout au cours de cette évolution, il y a des choses, des mécanismes, des systèmes enzymatiques qui ont été conservés de façon assez surprenante. Parfois, il y a des enzymes qu'on trouve dans des microalgues qu'on dit ancestrales. On les retrouve quasiment à l'identique dans la peau. Signe qu'elles ont un rôle super important et qu'elles ont vraiment été gardées pendant toute l'évolution. Alors après, il y a plein de similarités. Si je prends l'exemple de la peau, l'épiderme, c'est vraiment une succession de couches. Et en termes de physiologie, vous avez dans les couches basales, dans la couche basale de l'épiderme, vous avez des kératinocytes qui sont de forme assez arrondie. Et puis, en se différenciant, en allant vers la surface de la peau, ils s'aplatissent, ils donnent des cornéocytes. Et ben, quand on regarde la membrane d'une algue, on va retrouver une physiologie tout à fait similaire.
Ah oui.
Et avec les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre épiderme, on parle beaucoup de la fonction barrière, c'est exactement ça. Ça protège l'environnement, ça permet de limiter les pertes en eau. Et la membrane de l'algue va avoir exactement la même fonction.
Ok.
Donc il y a ce biomimétisme qui est super quand on commence à regarder ça, qui est très surprenant. Donc ça, c'est un exemple de particularité, de fascination. Avec ça, il y a aussi des molécules qu'on va trouver dans certaines algues qui vont être assimilées très facilement par la peau et même de manière beaucoup plus aisée que des molécules de synthèse. Je prends l'exemple de la taurine. Nous, on a une algue calcifiée qu'on cultive, qui s'appelle Jania rubens, et qui produit naturellement de la taurine. Donc cette taurine, bah, elle a les mêmes propriétés énergisantes que celles qu'on connaît, le fameux Red Bull. Voilà. Et donc, quand on la met en présence de cellules humaines, on voit de la synthèse d'ATP. C'est vraiment la molécule énergisante cellulaire. Eh bien, si on prend de la taurine de synthèse, pour avoir le même niveau de synthèse d'ATP, il faudra qu'on en mette 1000 fois plus. Et en fait, cette taurine d'origine marine, qui vient d'une algue, elle est assimilée, elle est mieux assimilée et elle va avoir un pouvoir beaucoup plus important, décuplé, que la taurine de synthèse.
Okay.
Alors certainement aussi parce que quand on fait une extraction avec les algues, on ne va pas extraire uniquement cette taurine, il va y avoir plein d'autres choses avec et une synergie d'action.
C'est ça.
Alors, Et après, le dernier exemple que je trouve assez incroyable aussi, et là, on s'intéresse plus au microbiote. C'est quelque chose d'un peu plus récent.
Ah ouais.
Donc, le microbiote... sont des bactéries, hein, microbiote cutané, bactéries qui se trouvent à la surface de la peau. On parle, peut même parler plus largement du microbiote humain. Il y a 73% de similarité entre le bactérioplancton, donc le plancton bactérien qu'on trouve dans la mer, et le microbiote humain.
Ah oui,
73% de similarité. Voilà.
C'est énorme.
C'est énorme. C'est énorme et donc et puis après quand on se souvient effectivement d'où on vient, comment les organismes ont évolué, on se dit bah finalement il y a beaucoup de choses qui ont été conservées.
C'est ça.
Et voilà, ça c'est quelques exemples qui expliquent pourquoi il y a un intérêt très fort à travailler avec voilà des produits marins. Et encore, je pense qu'on n'a pas tout exploré.
Ouais, j'imagine. Et quel type d'ingrédients, de principes actifs avez-vous développé à partir des algues ?
Bah, tout type. Hein. J'ai envie de dire.
Tout.
J'ai envie de dire, on peut tout faire. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une gamme d'ingrédients actifs. On doit avoir peut-être une cinquantaine d'ingrédients actifs.
Ouais.
Et on va couvrir. Toutes les revendications cosmétiques, que ce soit à la fois de l'hydratation, des stratégies anti-âge, de la minceur, de l'éclaircissant. Voilà, je pense qu'on a couvert à peu près toutes les revendications qu'on a aussi ici, qu'on a sur le marché en fait. Donc voilà, après il y a des algues qui vont être plus ou moins intéressantes pour l'hydratation,
oui.
D'autres pour l'anti-âge, mais ouais. Tout est accessible.
Et est-ce qu'on découvre encore des algues méconnues ou qui ont des propriétés inconnues aujourd'hui encore ?
Alors, oui. Et là, j'ai quand même retenu trois chiffres, juste pour répondre à cette question. 97% de la biodiversité de la planète se trouve dans les océans. Et je pense qu'aujourd'hui, on a surtout exploré la biodiversité terrestre.
Terrestre, ouais.
90% sont invisibles à l'œil nu. C'est une part énorme.
Oui.
Donc, tout ce qui est micro-algues, bactérioplancton. Et seulement 1% de cette biodiversité marine a été décrite. Donc,
wow.
Oui, voilà. Oui, on continue de découvrir, alors, pas seulement des algues, hein, des algues, des micro-algues, des bactéries marines qui ne sont pas connues. Et oui, on continue de découvrir des molécules, des polymères qu'on ne connaissait pas. Et il y a un potentiel d'innovation énorme.
Énorme, oui.
Énorme. Mmh.
Ouais. Sachant qu'en plus, vous êtes vraiment concentré dans une seule région, quoi.
Alors.
Sur un seul site, non?
Au départ, oui, c'est l'idée. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on a trois quarts des matières premières qu'on utilise qui sont issues de l'environnement breton. Mais on ne se limite pas forcément.
D'accord.
On a quelques sourcings qui viennent du Japon, par exemple.
Ouais.
Donc, c'est aussi au gré des rencontres
qu'on peut
faire. Après, à partir du moment où ça fait sens dans la qualité du sourcing, la qualité des technologies d'extraction, ouais. Et puis les mécanismes qui sont mis en œuvre pour l'amélioration de la peau. Mais c'est vrai que la première source d'inspiration, c'est l'environnement direct. Et
ouais.
Voilà, on a... On a de quoi faire.
J'imagine. Et comment ça se passe lorsqu'on découvre une algue aux caractéristiques intéressantes ?
Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, quand on commence à s'intéresser à une matière première, enfin, quand je dis matière première, effectivement, une algue ou une plante, la première question, c'est cette plante, cette algue, dans son environnement, dans quelle quantité elle est présente ?
Ouais.
Nous, on sait à peu près, quand on développe un actif, on sait quel volume on peut atteindre en 3 ans, 5 ans, 10 ans.
Mmh.
Et en fait, dès le départ, il faut se projeter là-dedans. Parce que si on travaille sur un développement et puis qu'au bout de 3 ans, on se dit il n'y a plus suffisamment de ressources. Déjà, c'est dramatique d'un point de vue écologique.
Ouais, écologique, c'est... Ouais.
Avant même de parler de l'impact pour notre activité.
C'est clair.
Donc, y a une étude d'abondance qui est faite. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises en place progressivement chez nous. Donc cette étude d'abondance, voilà, c'est d'étudier la ressource dans l'environnement, quelle quantité... elle est présente? Est-ce qu'il y a suffisamment de quantité? Est-ce qu'on peut récolter ce dont on a besoin sans, comment dire, mettre en danger un écosystème tout en assurant la pérennité de la ressource? Donc l'étude d'abondance, elle va aussi s'intéresser au cycle de vie de l'algue ou de la plante et de se dire... Si on décide de récolter, comment il faut récolter, à quel moment, quelle quantité, comment il faut couper? Est-ce qu'il faut laisser 10 cm ou pas? Voilà. Et tout ça va être étudié. Et ça va être étudié avec des partenaires qui sont vraiment des spécialistes de l'environnement.
Okay.
Qui vont repérer différentes zones, qui vont, ça va être fait pendant 2-3 ans, ça.
C'est un long process quand même.
Et même après, même une fois qu'on a engagé en fait le développement, même un ingrédient qui est sur le marché depuis 5 ans, on continue à observer l'évolution de la ressource.
Ok.
Parce que changement climatique, on sait tout ce que ça impacte, mais
pollution aussi.
Voilà. Mais c'est vrai que parfois il peut y avoir des déplacements des écosystèmes, et donc c'est un travail qui est fait en permanence. Et donc cette première étude d'abondance, en fait, va nous donner le feu vert ou pas pour faire une récolte en milieu naturel. Si on fait une récolte en milieu naturel, on va définir toute une procédure de récolte et on va demander à chacun de nos récoltants de s'engager à respecter cette procédure et même de s'engager à l'améliorer puisque eux sont sur le terrain, donc ils vont pouvoir observer des changements et les faire remonter et se dire attention, il faut peut-être plutôt qu'on fasse comme ci ou comme ça.
D'accord.
Voilà. Et on a vraiment la volonté que ce soit collaboratif parce qu'on travaille souvent avec des récoltants qui sont quand même des petites structures. Donc il y a parfois des procédures qui peuvent être lourdes à mettre en place pour eux. Donc l'idée, c'est aussi les accompagner. Voilà, pas dicter ce qu'on veut, mais travailler ensemble. Quoi.
Voilà, bien sûr. Ouais.
Et alors, si jamais l'étude d'abondance dit no way, alors là, c'est une deuxième manche qui commence. Là, on va étudier la possibilité de cultiver.
Voilà,
l'algue, la microalgue, la plante. Ça, c'est un deuxième challenge, en fait. Il y a des choses qui se prêtent très bien à la culture, d'autres qui sont un peu plus récalcitrantes. Jania Ruben, justement, l'algue dont je parlais précédemment, qui produit de la taurine, c'est quand même 6 années de recherche pour maîtriser sa culture.
Ah oui.
Et puis après, il y a tout le travail d'optimisation, parce que c'est une algue calcifiée, c'est compliqué à cultiver, ça pousse lentement, donc voilà. Mais on aime bien relever les challenges, voilà.
Et quand vous dites que vous cultivez, ça se passe comment
Alors, on a plein de programmes de culture différents. Ça va dépendre déjà du type d'algue.
Ouais.
Les micro-algues, j'allais dire, c'est assez facile, mais c'est pas vrai. Si l'équipe R&D m'entendait, je me ferais taper sur les doigts. Mais les micro-algues, on imagine tout de suite les cultiver en bioréacteur ou en photobioréacteur.
Ouais. C'est des gros cylindres, là.
Voilà, c'est des gros cylindres, transparents, avec un milieu liquide. Alors... on s'imagine facilement parce qu'en fait, elles vivent déjà, ce sont déjà des algues qui ne sont pas fixées au départ. Ouais, elles vivent déjà dans un milieu liquide sans être fixées à un rocher ou quoi que ce soit. Donc, a priori, les mettre en milieu liquide directement, ça
perturbe change pas grand-chose.
Pas trop. Voilà. Donc, on a des photobioréacteurs pour cultiver les micro-algues ou pour cultiver des algues calcifiées comme Jania Rubens. On a, pour le wakame, par exemple, la culture se fait dans la Rance, donc juste à côté de Saint-Malo.
Ouais.
Et en fait, ça, c'est une culture qui se fait sur corde. C'est-à-dire que les cordes sont immergées dans la mer. En septembre, on vient y mettre les bébés algues qui font quelques millimètres. On va immerger les cordes. Et puis, en avril-mai, on les récolte. Et là, au moment de la récolte, on a des algues qui font 3-4 mètres de long.
Ah oui.
Ouais.
Wow.
Et voilà. Alors ça, typiquement, c'est une algue qui se prête bien.
Ouais.
Il y en a d'autres qui vont être plus sensibles à tous les organismes qui vivent dans l'eau, qui peuvent éventuellement grignoter ou pas. Mais celle-ci, elle se cultive très bien comme ça sur corde. Et en plus, on a aujourd'hui, la culture est faite dans une concession privée, c'est-à-dire qu'il est interdit de pêcher, il est interdit de traverser cette zone en bateau.
Ça, c'est très protégé, quoi.
C'est très protégé. On est dans la Rance, donc on a une qualité, l'eau est renouvelée avec les effets de marée. Et donc on a une super qualité d'eau et c'est une culture qui est bio.
Ouais,
typiquement.
Okay.
Ouais.
Ouais. D'accord.
Et puis après, on a des abris bioclimatiques pour de la culture de plantes. Voilà. Donc, il y a différentes techniques qui peuvent être développées en fonction de l'algue.
De l'algue, ouais.
C'est de son comportement.
Ouais. C'est elle qui décide, en fait. Hein. Presque.
Ouais. On essaie de l'orienter un petit peu, de la stimuler.
Mais ça ne marche pas toujours.
Mais ce n'est pas toujours facile. Ouais. Et typiquement, quand on travaille avec du vivant, c'est aussi à nous de nous adapter. Le wakame, si la récolte doit se faire première semaine d'avril, alors que d'habitude c'est en mai, c'est première semaine d'avril. Hein. Et puis, il faut y aller.
D'accord. Ouais. Ouais, effectivement. Et comme vous disiez, ce genre de procédure entre le moment où on trouve une algue et le moment où on se dit on va peut-être pouvoir la cultiver pour en faire un actif, il se passe plusieurs années.
Déjà, il y a effectivement toute l'étude d'abondance, comment on récolte, après, il va y avoir toute l'étude du processus d'extraction, comment on extrait ce qui nous intéresse. Après, on va tester l'extrait. Est-ce que ça donne quelque chose ?
Oui, aussi.
C'est pas toujours une évidence.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que ça donne quelque chose ? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans la peau ? Quoi ? Donc, je dirais qu'un projet facile, c'est-à-dire quand tout s'enchaîne bien. Je pense qu'il y a au moins 5 ans, 5 à 6 ans, avant que ça arrive sur le marché.
D'accord. Et des fois, ça peut ne pas arriver, parce que tout simplement, au moment des tests, on se rend compte que ça ne donne rien.
Alors,
on
arrive quand même, il se passe quand même toujours quelque chose.
Ouais, d'accord.
Mais ça se passe... C'est pas toujours du premier coup.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et puis, il y a des choses qu'on peut voir, nous, en termes d'activité vitro, sur des explants de peau, sur des cellules. Et puis après, quand on passe en vivo, ça donne pas exactement ce qu'on voulait. Donc, on va réorienter, on va faire un deuxième test. Par exemple, entre rides et fermeté, parfois, ça marche super bien sur de la ride, ou l'inverse. Donc, des fois, il y a des choses à réorienter.
D'accord.
C'est pas toujours... Pas toujours les one shot.
Ouais, voilà. Et dernièrement, vous êtes allé explorer d'autres pistes, toujours dans le végétal, mais sur Terre.
Oui. Alors, on n'est pas parti très loin. irréductible breton que nous sommes. Oui, c'est vrai. On a travaillé un type de produit qu'on n'avait jamais travaillé avant, qui est un fruit. Mais quand je dis qu'on n'est pas parti très loin, on a travaillé avec une pomme à cidre. Donc ça reste typiquement breton. Et alors c'est un super projet parce que au départ on était très intrigués par les récepteurs du goût à la surface de la peau, parce que quand les scientifiques ont commencé à en parler, c'était un petit peu révolutionnaire de se dire la peau goûte
comment est-ce possible.
Voilà. Et donc on s'intéressait aux récepteurs à l'amertume. Le challenge, c'était de trouver des molécules qui soient capables d'activer ces récepteurs à l'amertume. Donc on a fait ce qu'on appelle du docking moléculaire, c'est du screening virtuel. On a passé 300 000 molécules en revue. Et on s'aperçoit que la famille de molécules qui arrive à activer ces récepteurs à l'amertume, ce sont des polyphénols.
Okay.
Et polyphénol amertume, c'est là que ça match en Bretagne, parce qu'en fait, les pommes utilisées pour le site sont des pommes amères qui sont riches en polyphénol.
Ah.
Donc voilà comment on est arrivé aux pommes, et on est arrivé à une variété qui s'appelle Marie Ménard, qui a un niveau de polyphénol assez élevé. Et on s'est intéressé aux pommes à cidre, et puis on s'est intéressé pas à la pomme elle-même, mais à un coproduit qui est issu de l'industrie cidricole.
C'est la peau, c'est quoi c'est...
Alors, la fabrication du cidre, on prend les pommes, il y a une étape de broyage, de pressage, et à l'issue du pressage, donc il y a un premier jus qui sera utilisé ensuite pour faire cidre ou du jus de pomme. Et puis, le marc.
Ouais.
Voilà. Donc, d'accord. Le marc, c'est tout le reste, en fait. La peau, les graines, les graines, les pépins.
Tout ce qui reste, en fait.
Tout ce qui reste.
Ouais. Comme quand les résidus, quoi, en fait.
Voilà. Comme quand on fait un jus d'orange pressé.
Oui, voilà.
Voilà. Il y a le jus et puis il y a tout le reste, la pulpe. En fait, c'est ça. Et le marc de pomme, jusqu'à présent, il était surtout utilisé pour l'alimentation animale.
Okay.
Ou pour faire des tisanes aussi. Mmh. Et dans ce marc de pomme, en fait, on retrouve des polyphénols, on retrouve les molécules qui nous intéressent. Et donc, voilà, on a décidé de travailler avec ce coproduit.
Et voilà comment Régétest est né.
Voilà.
C'est son nom.
C'est son nom et c'est une super histoire à la fois scientifique, sourcing, voilà, plein de belles choses. Et d'ailleurs, il est sorti il n'y a pas très longtemps. On est revenu avec 2 prix d'innovation. On est super contents.
Ah, donc, félicitations.
C'est le nouveau chouchou
c'est ça.
De la marque. Ouais.
Et quelles sont ses vertus à ce Régétest?
Alors, Régétest, il travaille... Alors, il a un positionnement plutôt anti-âge.
Okay.
Les récepteurs à l'amertume... Alors, ce qui est super intéressant, c'est que l'amertume, en général, c'est associé à des mécanismes de défense ou de protection.
Oui.
Les premiers chasseurs-cueilleurs, en fait, rejetaient instinctivement tous les végétaux amers.
Ouais.
Puis d'ailleurs, quand on y pense, enfant, les brocolis, le café, c'est pas...
Ah, d'accord.
Voilà. Et en fait, c'est parce que c'était souvent associé à des plantes toxiques. Et en fait, les plantes sécrètent des molécules amères pour éloigner les prédateurs.
C'est ça.
Et il y a un super exemple qui est celui des girafes et des acacias.
Mmh.
Les girafes mangent des feuilles d'acacia à longueur de journée, sauf qu'elles restent maximum 5 à 10 minutes sur le même arbre. Parce que quand elle commence à grignoter des feuilles d'acacia, l'arbre réagit en quelques minutes, et c'est là où la nature est incroyable.
Magique,
en quelques minutes, l'acacia produit des tanins, qui sont des molécules amères. Donc, la girafe change d'acacia. Et donc voilà, c'est vraiment un rôle de protection-défense. Et en fait, dans la peau, c'est un peu ça. Les récepteurs à l'amertume dans la peau, ils vont réactiver tous les processus de différenciation. Donc, différenciation épidermique, c'est fabriquer une nouvelle fonction barrière, donc protection. Et ils sont aussi capables de réverser la sénescence.
Oui.
Voilà. Et d'accord. La sénescence, les cellules sénescentes, il y a beaucoup de communication qui ont déjà été faites dessus, qu'on appelle un peu les cellules zombies parce qu'elles ne sont pas vraiment encore dans leur fonctionnement normal, elles ne sont pas mortes, elles produisent des médiateurs inflammatoires, elles sont toxiques pour les autres. Donc c'est vraiment une nouvelle cible anti-âge, ces cellules sénescentes. Et là, les récepteurs à l'amertume vont pouvoir les éliminer.
D'accord.
Et donc, en gros, l'idée, c'est de faire une nouvelle peau, effet peau neuve. Peau plus douce. Et d'ailleurs, on a fait une super collaboration avec... Je suis peut-être un peu longue sur cette réponse.
C'est intéressant. C'est intéressant.
On a fait une super collaboration avec la PU de Le Seignon qui travaille sur qui a développé un outil qui s'appelle le Touchy Finger. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ça. C'est génial. En fait, c'est un doigt augmenté.
OK.
Donc, vous placez un petit appareil sur votre doigt. Il y a des capteurs. Et puis en fait, quand vous touchez une surface, il va transformer les vibrations en son.
Ouais.
Donc je prends souvent l'exemple d'une route. Vous conduisez sur une route complètement
cabossée,
ça fait plein de vibrations.
Ouais, ça vibre.
Ou alors vous conduisez sur une route toute neuve, bien lisse, ça vibre plus. Et en fait, donc cet appareil va transformer ces vibrations en son. Et donc une peau qui est très rugueuse. On va pouvoir mesurer beaucoup plus de décibels. On mesure vraiment un bruit. Hein. On appelle ça le chant de la peau. Alors, c'est pas Mozart. Hein,
oui, mais... j'imagine.
Mais on entend
elle fait
vraiment...
un bruit. Elle fait un bruit particulier.
On a une belle différence entre une peau qui est rugueuse et une peau, donc nous, c'est après 2 semaines de traitement, mais qui a retrouvé une texture très lisse.
D'accord.
Et ça, c'est génial parce que on appréhende la peau avec un autre sens.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà. On apprend la peau avec l'ouïe. Et c'est lié directement au toucher. C'est-à-dire le toucher et l'ouïe. Voilà.
Ah, intéressant.
Donc voilà, c'est un ingrédient qui fait, fait peau neuve.
Prometteur.
Très prometteur.
Et la science de la peau, c'est aussi une autre expertise que vous avez développée dès les débuts de CODIF-TN. Pourquoi et en quoi est-ce que ça consiste?
Alors, c'est vrai que c'est le deuxième pilier de la marque. Et d'ailleurs, à sa création, la marque, c'était CODIF Recherche et Nature. Donc, c'est pour dire, il y avait déjà cette notion vraiment de recherche scientifique et de naturalité. Alors, pourquoi, déjà, quand on est fabricant d'ingrédients actifs, l'ingrédient actif, c'est une part importante dans le coût formule.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est un investissement pour nos clients et donc on se doit de leur montrer la plus-value que ça peut apporter et donc montrer une efficacité. Et ça, montrer l'efficacité, être capable d'expliquer pourquoi, ça nécessite de faire des tests. Donc, soit vous faites faire vos tests à l'extérieur, ça a un coût. D'autant plus qu'au début d'un projet, parfois, ça ne matche pas du premier coup. Quoi.
On est dans l'eau. Hein.
On se dit, a priori, ça devrait plutôt fonctionner comme ça. Ah non. Donc très tôt, en fait, il y a une volonté de la part d'Antoine Gédouin et Romuald Vallée d'investir les bénéfices dans la R&D. Et donc de développer un laboratoire, d'avoir des experts. Et en fait, aujourd'hui, on a deux laboratoires. On a un laboratoire qui va vraiment développer des modèles, qui va cultiver les cellules de peau, qui va développer des modèles d'épiderme, de peau reconstruite. Et puis, il y a un deuxième laboratoire qui va tester nos actifs sur ces modèles pour pouvoir explorer, comprendre les mécanismes d'action. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est une chance, en fait, d'avoir ces équipes et ce laboratoire, parce que ça nous permet parfois de préciser les choses, de préciser des mécanismes d'action, et puis d'avoir certaines découvertes à notre actif, et beaucoup de collaboration aussi.
Oui, j'imagine.
Ouais, ça, c'est important. On ne peut pas tout réinventer soi-même. Il y a des gens qui maîtrisent certaines choses vraiment bien, et pouvoir développer des projets de recherche, des projets collaboratifs, c'est toujours enrichissant. Et ça, c'est une part aussi importante de ce côté scientifique de la marque.
Ouais. Et alors, quelles sont les prochaines pistes de développement pour l'entreprise ?
Sans révéler de secret.
Sans révéler de secret, bien sûr. Non.
Alors, on a. Je pense qu'on a été assez précurseurs, en tout cas parmi les premiers sur deux domaines. C'est les polymères marins. On a une gamme d'exopolysaccharides marins qui sont des molécules complètement uniques, produites par des bactéries marines. On continue à travailler sur des polymères marins complètement inédits, qu'on ne connaissait pas nous-mêmes il y a 5 ans de ça. Voilà. Donc ça c'est une piste, c'est quelque chose vraiment qu'on continue d'explorer, parce que c'est ce qu'on se disait juste avant. Il y a gros potentiel de découverte et d'innovation là-dessus. Et puis le deuxième segment, c'est le microbiote cutané. Et il y a 10 000 façons de travailler.
C'est clair.
Pour et avec le microbiote. Et puis, plus, c'est une science vraiment récente.
Oui, c'est ça.
Et donc, ça ouvre tellement de portes. Enfin, dès que ça avance, il y a 10 portes qui s'ouvrent d'un coup. Donc, ça aussi, c'est un axe assez fort chez nous qu'on poursuit. Et puis, le reste, je ne peux pas te dire, je vais me faire disputer.
Est-ce que, du coup, il y a des ingrédients ou des actifs que vous développez qui peuvent, j'imagine, qui peuvent remplacer des ingrédients de synthèse ou des choses qu'on peut plus utiliser. Je pense au silicone, des choses comme ça.
Ça, c'est une super question.
Oui,
on commence à faire ça. Ouais. On commence à s'intéresser aux ingrédients fonctionnels. Et puis, on commence à nous le demander.
Ah ouais, aussi.
Aussi, parce que je pense que on est assez bien identifié sur le marché comme une marque capable, enfin, comme une marque naturelle, avec une expertise aussi, donc des capacités de recherche et d'innovation.
Ouais, c'est ça.
Et effectivement, oui, on commence à travailler sur certaines molécules fonctionnelles qui posent problème aujourd'hui avec la réglementation. Et nous, on travaille sur des alternatives naturelles, tout en gardant notre ADN, avec un beau sourcing, tout ça. Mais oui, et c'est très bientôt, ce sera pour In Cosmetics. Alors, je ne vais pas en dire trop parce que...
In Cosmetics de 2024.
De 2024,
okay. D'accord.
Mais oui, on est complètement dedans.
Bon. Et je sais que vous êtes très engagé pour la préservation de la biodiversité. Hein. Je crois que vous soutenez des associations qui font ce travail.
Alors, on travaille avec Jérémy Gobet, qui a créé le projet Corail Artefact. Ça, c'est une super histoire. Jérémy, c'est un artiste avec aussi une formation scientifique. qui a très tôt été fascinée par les coraux et surtout, en fait, en tant qu'artiste, par les motifs très géométriques qu'on trouve avec le corail. Ouais. C'est fascinant. Voilà, et puis un jour, il découvre le motif de la dentelle du Puy-en-Velay, qui s'appelle le point d'esprit, et qui est en tout point similaire au motif qu'on peut retrouver chez les coraux. Et il fait même le parallèle entre le corail, quand il est blanc, qui est mort, et la dentelle du Puy-en-Velay, en fait, qui est issue d'un artisanat assez unique en France, ouais, et puis qui a tendance un petit peu à disparaître aussi. Et en fait, la problématique des coraux, c'est que quand ils vont émettre leurs spores, les spores, si elles ne trouvent pas de support ou s'accrocher, elles ne peuvent pas se régénérer.
Okay.
Et les solutions qui avaient pu être développées au départ, c'était des supports plutôt en béton.
Oui.
Qui ne fait pas beaucoup sens parce que, voilà.
On ajoute une pollution à
exactement.
Une autre.
Et donc, lui, son idée, quand il voit la dentelle du Puy-en-Velay avec ce motif tout à fait comparable à celui des coraux, c'est de se dire, mais est-ce que cette dentelle, elle pourrait pas être reconnue par les spores comme un support?
Ouais.
Donc, il a commencé à développer des supports en dentelle. Puis, en plus, c'est du coton.
Oui.
En termes de biodégradabilité, on est quand même.
On est bien.
Beaucoup mieux qu'avec du béton.
C'est clair.
Voilà, et puis donc il a travaillé à développer cette dentelle, à faire des essais, effectivement, commence à avoir de la régénération sur des échantillons de dentelle. Et puis il nous a contacté un jour, puisque dans ses recherches, il s'est aperçu que, en fait, l'environnement était très important pour éliciter la régénération des spores, et que certains nutriments marins pouvaient... favorisé.
Ouais.
Et donc, il nous a contactés pour savoir si on n'avait pas des extraits qu'on pourrait éventuellement tester sur les dentelles et qui permettraient d'éliciter la régénération des spores. Donc, au-delà d'un soutien, c'est une vraie collaboration qui s'est mise en place avec aujourd'hui des dentelles, effectivement, qui sont imprégnées d'ingrédients qu'on fabrique nous pour pouvoir éliciter la régénération du corail.
Pas mal. Passionnant.
Ouais, c'est très chouette.
Ah, c'est sympa.
Ouais, beau projet.
Ouais,
et puis, il a une vocation aussi très éducative avec ce projet-là, à sensibiliser.
Ouais.
Les
écoliers,
les écoliers, beaucoup.
Ouais, c'est bien. Et en tant qu'entrepreneur débutant, par exemple, j'arrive, je vous dis, j'ai un projet, une formule, et si je suis intéressée par un ingrédient ou un de vos savoir-faire, je peux vous contacter et vous dire bonjour.
Oui,
ouais.
Et bien sûr. Mais bien sûr, on est toujours à l'écoute, je veux dire... entrepreneur débutant ou pas, il n'y a pas de petits projets.
Oui, bien sûr.
Voilà. Il faut nous contacter.
Ouais,
et puis surtout, on est une entreprise à taille humaine et je pense aussi qu'on est très humain dans notre tempérament et très transparent. C'est-à-dire que parfois on ne sait pas faire, mais on dit qu'on ne sait pas faire.
Oui, voilà. Tout simplement.
Après, on peut choisir d'explorer certaines voies ensemble ou d'orienter vers des gens qu'on sait pouvoir faire. Mais je pense qu'il ne faut jamais hésiter à frapper aux portes. Au pire, on n'a pas de réponse.
C'est ça. Il n'y a aucun problème. Donc, on vous contacte sur le site.
Alors, on nous contacte sur le site, sur LinkedIn, sur les salons.
On peut rappeler le nom du site?
Alors, c'est assez simple, c'est www.codif-tn.com.
Super. Merci beaucoup, Gabrielle.
Merci, Chantal.
C'est déjà terminé. Le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, parlez de Beauty Toaster à au moins 2 personnes de votre entourage. Ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine !